tous les auditeurs de Radio MDM. Aujourd'hui, je vous présente une émission nouvelle intitulée « Leur histoire est aussi notre histoire ». Elle sera consacrée à l'histoire et au patrimoine de la région du Marsan. Mais pas le Marsan que vous connaissez aujourd'hui, qui est un Marsan administratif, mais un Marsan beaucoup plus vaste qui, pendant plusieurs siècles, s'est étendu sur l'équivalent de plusieurs cantons, ceux de Mont-de-Marsan, Villeneuve, Roquefort, Grenade notamment, et quelques petites communes en plus, car c'était celui de l'ancienne vicomté de Marsan. Et sur ce territoire, il y a non seulement une histoire, mais aussi un patrimoine très intéressant que je voudrais vous présenter au cours de ces différentes émissions. Alors, de temps en temps, j'aurai un intervenant, à d'autres moments pas. Pour la première émission consacrée à la préhistoire, ainsi que pour les deux suivantes, un intervenant, Didier Vigneault, qui va se présenter. Bonjour Didier.
Bonjour Jeanne-Marie, merci encore de m'avoir invité à votre émission. Je suis donc archéologue bénévole au Centre de recherche archéologique sur les Landes, où j'exerce la fonction de responsable d'opération, c'est-à-dire que je dirige des opérations de fouilles et de prospection archéologique. J'ai donc pour cela un master en archéologie que j'ai obtenu à l'université de Paris-Sorbonne, et je suis en train de préparer actuellement une thèse en archéologie via la faculté de Pau. Mon directeur de thèse est François Réchin.
Didier, vous voulez rappeler pour nos auditeurs ce qu'est la préhistoire?
C'est une période assez longue qui s'arrête par convention aux alentours de 50 avant Jésus-Christ.
Alors, Didier, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez évoquer l'environnement de cette lointaine période, c'est-à-dire quelle était la végétation, quel pouvait être le ou les paysages de cette période? Et ensuite, comment connaît-on cet environnement?
Nous avons des données environnementales pour cette période grâce aux analyses de pollen qui ont été réalisées dans quatre lagunes, deux situées en Sud-Gironde et deux dans les Landes, une à Calinx et l'autre à Broca. C'est à ce moment-là, c'est-à-dire entre 5700 et 3500 avant Jésus-Christ, que les premières céréales apparaissent. Ensuite, aux alentours de 3500 avant Jésus-Christ, une période qui va entre 3500 et 1000 hein, en fonction des analyses réalisées, qui ne sont pas tout à fait synchrones pour toutes les lagunes, ben là, il y a une anthropisation forte qui commence sur le territoire, c'est-à-dire qu'il y a l'action de l'homme avec des fenêtres de plus en plus ouvertes dans la forêt, visiblement pour pouvoir commencer à réaliser de l'agriculture. Ces ouvertures, ces forêts dans la forêt vont créer de la lande, mais en faible quantité. Donc le paysage sera toujours dominé par une chenée mixte, hein, et les essences secondaires, on va dire, seront le bouleau, le noisetier, le pin et le hêtre. À partir de ce moment-là, aux alentours de 1800-1900 avant Jésus-Christ, on commence à voir naître le pastoralisme, et ça c'est un vecteur qui est bien marqué. Voilà, cette chenille mixte accompagnée de landes, avec des ouvertures de plus en plus importantes sur le territoire, et donc le début de l'agriculture et l'agriculture de plus en plus expansive sur le paysage, tout ça va continuer jusqu'à la fin de la préhistoire. Et on verra pour l'époque romaine ce qui se passe. Voilà pour les données environnementales que nous avons, qui ont été confirmées sur un site qui a été la fouille de Mazerolles à Beaussiette, hein, a confirmé que pour l'âge du bronze, on avait bien du chêne qui dominait, plus du bouleau, du noisetier, du pin, du hêtre, hein, en essence secondaire. Donc voilà, ces analyses palynologiques étaient bien évidemment validées par cette fouille à Mazerolles.
Est-ce que ces évolutions climatiques qui, elles, à la différence de ce que nous connaissons aujourd'hui, sont naturelles et s'étalent sur des centaines, voire des milliers d'années, est-ce qu'elles ne vont pas avoir des conséquences sur l'activité humaine ?
C'est vraiment une question très intéressante et très pertinente, mais malheureusement, les données paléoclimatiques font défaut. En effet, il n'y a pas eu assez d'études poussées dans le domaine pour pouvoir y répondre, surtout à l'échelle locale. On sait, en analysant notamment les glaces qu'il y avait au pôle Nord, on sait qu'il y a eu des réchauffements climatiques suivis de refroidissements. On sait que vers l'âge du bronze, il y a eu notamment une petite période glaciaire, mais on ne peut pas répondre à l'échelle du territoire, et j'espère que d'ici quelques années, je pourrai répondre à cette question.
Donc, les Landes et le Marsan, à cette époque, présentent un paysage qui est bien boisé, tout à fait différent de la lande d'Arnaudun. A-t-on trouvé beaucoup de sites pour cette période dans l'ensemble du Marsan ?
Alors concernant les sites, nous avons quelques sites anciens autour du Marsan, notamment à Saint-Pierre-du-Mont et au Cas et la Brite, où là, des épisodes mésolithiques sont rencontrés, matérialisés par la découverte de silex.
Vous pouvez préciser ce qu'est la période mésolithique ?
Le mésolithique, c'est une période qui commence aux alentours de 5800 avant Jésus-Christ. Donc ces éléments en silex sont très marqués, et il y a donc une présence assez ancienne sur ce secteur-là.
Et là, nous arrivons au néolithique, dont le nom est un petit peu plus familier.
Alors le néolithique, c'est quand même une période qui va durer pratiquement 3300 ans, qui va s'arrêter à 2500 avant Jésus-Christ. Pour le néolithique, nous avons aussi quelques témoins, souvent matérialisés par la présence de haches en pierre polie. Ces haches en pierre polie trahissent l'exploitation de bois, peut-être de forêt, mais lorsqu'elles sont découvertes isolées, on ne peut pas les associer à une occupation continue de l'espace, mais juste voilà, à leur rôle d'objet, c'est-à-dire l'exploitation du bois et de la forêt. On n'a donc pas tellement de traces d'habitat au néolithique, si ce n'est pour le néolithique final, une période qui commence vers 2008 avant Jésus-Christ jusqu'en 2005, où là nous avons un peu plus d'éléments. Nous avons un habitat qui se trouve sur la commune de Saint-Yagen, c'est un peu plus à l'ouest, mais qui se trouve sur la commune de Saint-Yagen, et qui est matérialisé par la présence de vases silos. Vases silos, ce sont des vases qui sont enfouis, des contenants qui sont enfouis dans le sol et dans lesquels sont stockés des matériaux que nous voulons conserver au frais, comme par exemple des graines. Donc ces contenants, une fois qu'ils sont remplis ou vidés, sont recouverts, soit avec matériaux périssables comme des toiles, ou soit avec des fragments de fond de céramique, ce qui permet d'en assurer l'étanchéité et de conserver la fraîcheur.
Quelle est la taille de ces vases silos ?
Ces vases silos n'avaient pas des tailles standards, certains pouvaient mesurer à peu près 40 cm de haut, d'autres 60, et le diamètre pouvait aller de 30 à aussi une cinquantaine de centimètres à l'ouverture. Voilà, donc ces vases silos, on en a trace au néolithique final, comme je le disais. Pour ce néolithique final, on a aussi quelques éléments céramiques qui sont apparus pour le calcolithique, c'est exactement la même période, là, je vous disais au néolithique final. Donc le calcolithique, on l'appelait aussi autrefois l'âge du cuivre. Et on a plusieurs éléments qui ont été répertoriés, comme des vases décorés sur les communes de Maillère, sur la commune de Broca. On en a retrouvé un peu plus à l'ouest, sur la commune de Leleuil. On en a quelques éléments. À Mont-de-Marsan, lors des fouilles réalisées sur la terrasse des musées par Xavier Schmitt en 1975, il y avait eu des haches en pierre polie qui avaient été trouvées, un certain nombre, c'est pas précisé. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, ces haches ne signifient pas qu'il y a une occupation du site à cette époque. Ça ne signifie pas non plus que les prompts barrés qui matérialisent le site ancien de Mont-de-Marsan fut en forêt, ça aussi. On peut très bien aussi avoir une occupation, l'occupation du site de Mont-de-Marsan qui a commencé à ces périodes-là. Voilà, donc pour Mont-de-Marsan, c'est un petit peu difficile de savoir si on a réellement une occupation du site des néolithiques.
Pour terminer cette première partie, vous allez nous proposer une chanson.
Alors j'ai choisi comme chanson, et pour rester dans la thématique d'aujourd'hui, le groupe Mano, La Tribu de Dana.
Sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gants. gorgé d'hydromel pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana. Quelques incantations de druides et de magie, tout attribu le glaive en main courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant, de férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana. On entendait le son d'une corne, d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et qu'à la tribu de Dana appartenait ses terres? Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi. Mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana. Tribu de Dana. Je suis devenu roi.
Nous revoici dans l'émission « Leur histoire est aussi notre histoire » consacrée à la préhistoire. Dans une première partie, Didier Vigneault nous avait expliqué quel était le cadre environnemental de cette lointaine époque et également quels sites avaient été découverts. Et cette seconde partie est aujourd'hui consacrée à l'âge du bronze dont Didier va nous parler tout de suite.
Pour la période suivante, qui est la période de l'âge du bronze, qui commence aux alentours de 2500 avant Jésus-Christ pour se terminer aux alentours de 700-750 800 avant Jésus-Christ, là nous avons beaucoup plus d'éléments.
Donc si j'ai bien compris, c'est à cette période que l'on trouve les premiers vestiges de bâtiments.
Oui, je confirme que c'est à cette époque-là que l'on retrouve dans le Marsan la trace de premiers habitats. Nous avons notamment un habitat, un très joli habitat, qui a été fouillé sur la commune d'Aru, pas très loin de la commune de Maillère, et qui date de l'âge du bronze final, une période qui commence aux alentours de 2300-2400 avant Jésus-Christ. Alors cet habitat a été matérialisé par la présence de tessons de céramique, plus de 2000, mais surtout c'est C'est Tesson Sarami qui était disposé de façon à matérialiser une paroi. Voilà, donc on avait bien la trace là d'un bâtiment dont on a retrouvé un négatif matérialisé par cet alignement de tessons. Et sous ces tessons, il y avait une chose vraiment intéressante, c'est qu'on a découvert des fragments de glands torréfiés, des glands de chêne torréfiés. Il y avait une petite vingtaine de glands torréfiés. Ces glands torréfiés, on ne les retrouve pas que au bronze final, on a retrouvé d'autres pour la période de l'âge du bronze, de l'âge du fer, on a retrouvé aussi pour une période, pour ainsi dire, de la période du haut Moyen-Âge. Et ces glands torréfiés ont certainement participé à des compléments nutritifs pour les périodes anciennes. Il y a à ce jour des recettes qui utilisent justement ces glands torréfiés. On peut produire du café avec, un humeur de café. Et on peut aussi produire de la farine avec. Donc il est tout à fait possible qu'à l'époque on utilisait ces glands torréfiés pour produire aussi de la farine lorsqu'on venait à manquer de céréales. Alors, c'était une possibilité. Malheureusement, on ne sait réellement toujours pas à quoi... dans quelle recette étaient utilisées ces glands torréfiés. Voilà, donc on était à l'âge du bronze ancien où nous avons découvert ce site avec ces céramiques richement décorées du bronze ancien. Une autre période qui commence après est celle du bronze moyen qui s'arrête aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ. Donc ce bronze moyen, là par contre, est beaucoup plus représenté. On arrive à mieux le cerner dans le paysage archéologique. Et ce bronze moyen, on a énormément de sites que l'on a découverts dans le secteur de Mont-de-Marsan. Donc sur Mont-de-Marsan par elle-même, on n'a pas d'indice du bronze moyen par lui-même. Mais on en a tout autour, on en a sur... juste au nord de Mont-de-Marsan, au niveau de la base aérienne, il y avait un site du bronze moyen qui avait été découvert. Après, il faut aller sur les communes de Saint-Martin-d'Aunay, Mayères, Caninx, et ensuite Bostens pour découvrir ce type de site.
Vous parlez de vases silo dont la contenance devait être importante. Quelle taille faisaient ceux que vous avez découverts? Quel volume de grains, de céréales contenaient-ils?
Et c'est, tous ces sites matérialisent des habitats. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on trouve des vases silo en grande quantité, souvent par paire. Donc on enfouit deux vases silo pour pouvoir conserver ce que l'on voulait mettre au frais. Et ces vases silos, c'est grâce à eux que on peut affirmer qu'il y avait bien des habitats. Donc ces vases silos sont très nombreux. On a trouvé une vingtaine de sites à peu près où il y avait du vase silo sur Saint-Pierre-du-Mont, si on a découvert à l'ouest de Saint-Pierre-du-Mont. Voilà, donc il y a plein de sites comme ça qui sont matérialisés par la présence de vases silos dans les Landes.
S'il y avait autant de vases silos, c'est que déjà il devait y avoir des communautés un peu regroupées, assez importantes. On a l'impression que le peuplement s'est quand même densifié depuis la période précédente.
Il y a une dynamique de peuplement qui est très importante. On découvre beaucoup de sites. Notamment tous ces sites ont des similitudes typologiques au niveau de la céramique, une céramique de typologie semblable, 100% semblable avec ce qui se fait dans le Médoc. C'est pour ça que certains sites, certaines poteries sont appelées des vases du bronze moyen type médocain, parce que dans le Médoc ils étaient les premiers à en découvrir. Et il s'avère que maintenant dans les Landes, on a dépassé le nombre de sites contenant ce type de vase. Et je pense qu'il faudrait peut-être les rappeler un jour, âge du bronze moyen, bronze moyen médocain-landais. Ça serait pas mal. Cela prouve certainement aussi qu'il y avait des échanges entre le Médoc et la région de Mont-de-Marsan à cette époque-là. Au bronze moyen, c'est là où on commence aussi à développer du métal. Hein. On a découvert notamment sur un site de Igos à Saturna un moule bivalve, un fragment de moule bivalve qui servait à réaliser des pointes de flèche. Donc ces pointes de flèche étaient fabriquées avec, avec un alliage cuivreux qu'on pourrait appeler du bronze. Hein. Cet alliage cuivreux, on sait pas du tout à ce jour d'où proviennent les matières premières, même si le bronze étant constitué de cuivre plus étain, on sait que la Grande-Bretagne à l'époque avait produit pas mal d'étain et donc l'importait vers nos côtes.
L'Angleterre n'était pas la seule à produire de l'étain, il y en avait aussi en Espagne. L'Espagne possédait de nombreuses mines, donc l'origine peut aussi être espagnole.
C'est vrai que pour l'instant, toutes les études ont montré que l'étain provenait d'Angleterre. Ça, ce sont les dernières études qui ont été réalisées. Mais bien évidemment, on ne peut pas écarter non plus une origine hispanique de l'étain, ni même une origine française, hein, puisque il est possible que dans le Massif central, on ait eu aussi des mines d'étain. Hein. C'est pas à exclure. Hein. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on reste sur une origine plutôt britannique. Mais je pense que dans l'avenir, certaines études montreront peut-être qu'il y a d'autres origines de l'étain qui rentrent en compte dans la fabrication, notamment du bronze.
On ne sait pas trop encore d'où provient ce cuivre hein, qui a servi, cet étain qui ont servi à fabriquer ces pointes de flèche. Mais on a la preuve qu'il y a eu, de l'activité métallurgique pour le bronze moyen. Après le bronze moyen, il y a une autre période qui apparaît, qui est celle du bronze final. Là, le bronze final, c'est pareil, elle est matérialisée par une production céramique richement décorée. Ce bronze final, on le trouve d'ailleurs sur Mont-de-Marsan, hein, sur toute la superficie de l'éperon barré de Mont-de-Marsan, où on a du bronze final qui a été découvert dans plusieurs fouilles. Alors ce bronze final, on en a d'autres, on a d'autres sites qui gravitent autour de Mont-de-Marsan. Hein. Mont-de-Marsan n'est pas le pôle central, on ne peut pas dire que ça soit le site phare de la région, mais on a d'autres indices du bronze final sur plusieurs communes, comme Saint-Avit, Saint-Pierre-du-Mont, on en a aussi sur Campet-et-la-Molaire. On en a aussi un peu plus loin sur Campagne, sur Serre. Voilà, donc on a pas mal de sites du bronze final qui gravitent. Et là aussi, on a une dynamique d'occupation du sol qui est assez forte, mais qui semble, alors c'est vraiment dans le ressenti, hein, qui semble moins importante que pendant le bronze moyen.
Puisque nous arrivons à la fin de cette émission qui était donc consacrée surtout à l'âge du bronze, eh bien, il est temps de proposer une seconde chanson.
Alors, je vais vous proposer une chanson qui n'a rien à voir avec le thème, mais qui est une chanson que j'aime bien, qui est Albano et Romina Power, Felicita.
Innocente in mezzo alla gente la felicità e restare vicini come bambini la felicità, felicità,
felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità,
felicità. E un bicchiere di vino con un panino la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto la felicità, e cantare a due voci quanto mi piaci la felicità, felicità.
Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità.
che fa. Come